Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Emeline Amétis.
C'est parti!
Allô, bienvenue dans ce balado. Cette semaine, on traverse l'océan pour s'intéresser à la patrie du féminisme nord-américain, le Québec. Est-ce vraiment la terre promise de l'exil féministe? On va en parler cette semaine avec Emeline.
Salut Clémentine.
Salut,
ça va? Ouais, bah écoute, moi ça va. Hein. Bonne année 2021.
Ouais.
Je me remets doucement des fêtes, j'essaye de tenir mes résolutions, et toi?
Eh bien, 2021 vient à peine de commencer, que c'est déjà la merde, entre les virus mutants et les racistes américains. Donc, comme dit la poétesse Aya Nakamura.
J'avoue. Eh bien, écoute, dis-nous, quelles sont les premières actualités du féminisme qui t'ont marquée en ce début d'année?
Oui, alors, inceste partout, justice nulle part, puisque Camille Kouchner publie dans son livre La Familia Grande, dénonce les viols subis par son frère Alexandre de la part du politologue Olivier Duhamel. Celui-ci a démissionné de ses multiples fonctions et une enquête est ouverte.
Moi, ce qui m'a frappée, effectivement, c'est que, une fois de plus dans cette histoire, on a fait comme si la révélation ou parler était plus grave que l'acte lui-même. Ça m'a frappé parce que j'entends encore, alors là, la Camille Kouchner, on lui reproche tout. Pourquoi a-t-elle fait un livre? Pourquoi a-t-elle fait un livre dans une collection littéraire? Pourquoi n'a-t-elle pas mis le nom de famille? Ça va jamais, quoi. Et elle dit assez bien, écoutez, il a parlé toute sa vie, il était sur LCI, sur Europe 1, toutes les semaines, et moi, je parle et ça va jamais. Et c'est toujours le même phénomène.
Car oui, même quand les faits sont prescrits, on a quand même le droit de s'exprimer. Voilà. Merci pour les victimes. Et toi?
Eh bien, écoute, sur une note plus positive, je retiens que l'Argentine a enfin légalisé l'avortement.
Oui.
Resulta aprobado con 38 votos affirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado.
Et puis le Royaume-Uni a supprimé la TVA sur les protections périodiques pour lutter contre la précarité menstruelle. Mmh. Alors on va pas se mentir, on aurait préféré qu'elles suivent l'exemple de l'Écosse et les rendent gratuites, mais il n'y a pas de petites économies. En moyenne, ça représente 45 euros de dépenses en moins pour les personnes menstruées.
Cool, merci pour ces économies de début d'année.
Ouais.
Alors, on va se pencher sur le sujet de la semaine et peut-être qu'on va commencer par rappeler un peu quelle est l'histoire du Québec et quels sont ses liens aussi avec la France, parce qu'on ne l'étudie pas, en tout cas à l'école en France, et on ne la connaît pas toujours.
En effet, recontextualisons, il faut savoir que l'histoire du Québec commence bien avant l'arrivée des premiers colons français et britanniques, puisque le vaste territoire nord-américain est occupé depuis plus d'une dizaine de milliers d'années. D'ailleurs, le terme que l'on utilise pour désigner les peuples autochtones du Canada, outre les Métis et Inuits, ces Premières Nations, il en existe 634 au Canada, dont les Iroquois, connus notamment pour leur société matrilinéaire. Et le Québec compte 11 nations autochtones, en plus des Inuits.
Oui, tu fais bien de le rappeler, puisque c'est quand même une différence, disons, avec la France. Et avant l'arrivée des Européens, c'était surtout des peuples nomades ou semi-sédentaires qui migraient au rythme des saisons. Ensuite, il y a eu la terrible période coloniale à la fin du 15e siècle. Et si le commerce et les accords existent, les conflits et les épidémies aussi ont ravagé ce territoire. De nombreux affrontements ont eu lieu entre les colonies britanniques et ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France. Mais le traité de Paris a été conclu en 1763 et les territoires qui étaient sous contrôle français, RIP, ont été cédés aux Britanniques. Et donc la Nouvelle-France est devenue The Province of Québec.
Quelques temps après, la couronne d'Angleterre décide d'unifier trois de ses colonies pour créer le Canada en 1867, ou en tout cas ce que l'on appelait à l'époque la Fédération Dominion du Canada, et ce sans consulter les peuples autochtones qui étaient établis.
Surprise.
Eh oui, l'heure est à l'assimilation de gré ou de force.
Et ensuite, en 1876, l'acte sur les sauvages, qui a ensuite été renommé la loi sur les Indiens, a été adopté. Il prévoit, entre autres, le contrôle de l'identité dite indienne, l'abrogation des droits à l'autodétermination des Premières Nations, leur sédentarisation à l'intérieur de terres dites de réserve, ainsi que évidemment de nombreuses interdictions.
Parmi celles-ci, on retrouve notamment l'interdiction de pratiquer des activités culturelles ou spirituelles.
Sympa.
De posséder un terrain sur une terre de réserve, ce qui rend la propriété d'une habitation très peu avantageuse. De contracter une hypothèque et même, à la suite de l'amendement de 1927, d'avoir recours à des procédures juridiques sans autorisation préalable. Alors cette loi, il faut savoir qu'elle est toujours en vigueur aujourd'hui, selon sa version amendée certes, mais quand même.
Ouais, ça a été vraiment une forme de colonialisme interne à ces États, et ce qui a le plus profondément meurtri les populations autochtones et détruit les unités familiales, c'est sans doute quelque chose que l'on connaît peu, en tout cas en France, des programmes d'adoption racistes et le régime des pensionnats qui ont été conçus à l'initiative du gouvernement canadien et qui ont été administrés par les différentes églises, donc catholiques, anglicanes, unies, méthodistes et presbytériennes. Ce qui ne veut pas dire que, évidemment, la situation en France et dans les DOM et dans les TOM soit meilleure.
L'objectif est clair, tenir à distance les enfants de l'influence de leur communauté pour casser la transmission culturelle et linguistique. Duncan Campbell Scott, le ministre que l'on appelle à l'époque l'architecte des politiques indiennes, a dit lui-même « Notre but est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui ne soit assimilé à notre société ».
Oui, c'est vrai que cette politique d'assimilation, elle peut nous rappeler des choses dans la politique française d'intégration forcée et de questions migratoires qui ont été donc très très mal abordées chez nous. Finalement, on compte plus de 150 000 enfants arrachés à leur famille, sans doute peut-être bien plus en réalité. Et au Québec, 6 pensionnats destinés aux enfants des Premières Nations vont ouvrir à partir des années 30. Plusieurs autochtones habitant le territoire devenu québécois et notamment la région de Montréal, ont également été envoyés dans des pensionnats à l'extérieur de la province.
Ma mère m'a fait des belles tresses quand je suis partie, puis ils me l'ont coupée. Puis j'avais les cheveux coupés carrés, toupette carrée, puis tu sais, toute carrée. Puis on avait toutes les mêmes coupes, toutes les filles. On me disait tout le temps que les Indiens, ça pue, ça se lave pas. C'est de ça que j'avais honte.
Et bien que le régime des pensionnats se soit traduit dès les premières années par des épidémies dévastatrices, de tuberculose entre autres, d'innombrables abus physiques, psychologiques et sexuels, en plus de taux de mortalité infantile alarmants, le dernier des 139 pensionnats recensés ne fermera ses portes qu'en 1996. Alors bien sûr, l'histoire des peuples autochtones au Canada et au Québec ne saurait se résumer à ces chapitres dramatiques, mais il est impossible de sous-estimer les conséquences traumatiques des politiques assimilationnistes d'un point de vue social.
Et donc, pour en revenir à aujourd'hui, à la fin de l'année 2020, Montréal a dévoilé 125 engagements dans le cadre de sa stratégie dite de réconciliation entre les communautés autochtones et la ville. Mais vis-à-vis de ce que la mairie envisage comme une concrétisation de l'engagement qu'elle a pris il y a déjà plusieurs années à l'égard des Premières Nations et des Inuits, beaucoup de personnes, et notamment de personnes concernées, restent dubitatives. D'ailleurs, la directrice générale du foyer pour femmes autochtones de la ville de Montréal, par exemple, l'a qualifiée de vague et a déploré le manque d'échéanciers et de plans d'action. Donc cette stratégie de réconciliation est censée arriver à son terme en 2025.
Écoute, l'avenir nous le dira.
Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que l'histoire du Québec n'est pas une histoire de personnes blanches, ou en tout cas, pas que. Et pour parler un peu du féminisme québécois qui nous intéresse, on peut dire déjà qu'il se situe à mi-chemin entre les féminismes états-uniens et européens. Et en cela, il est intéressant. Il est d'ailleurs perçu comme l'un des plus dynamiques au monde. Et d'ailleurs, feu notre ancienne ministre Simone Veil disait envier les Québécoises. Alors, il faut savoir que les Canadiennes se sont d'abord regroupées depuis 1893, donc depuis la fin du 19e siècle, dans un seul et même organisme qui s'appelait le Conseil national des femmes du Canada, qui a aussi connu une déclinaison francophone, et que les revendications étaient assez similaires aux mouvements français et internationaux de l'époque. Et à sa tête, on trouvait une militante appelée Marie Guérin-Lajoie.
Je dirais que le principal chemin que va emprunter Marie dans toute sa vie, c'est celle de l'étude. C'est vraiment une femme qui a été assoiffée de connaissances, qui s'est assise à tous les jours de sa vie pour lire, pour étudier, pour travailler. Et ça l'a amenée à prendre conscience théoriquement de certaines choses, comme je parlais tout à l'heure de certaines injustices, par exemple, dans le droit civil, mais aussi, bon, je l'ai dit, sa mère était une philanthrope engagée et elle amenait Marie avec elle faire la visite des familles pauvres, donc elle a aussi été confrontée à la misère de l'époque et aux difficultés des familles ouvrières.
Au Québec, il y aura aussi un certain nombre de journaux féministes au cours du XXe siècle, La Bonne Parole, La Sphère Féminine, La Gazette des Femmes, Femmes d'ici, etc., etc. Et en accompagnant les mouvements anglophones qui ont été à l'origine de cette impulsion, il va aussi y avoir un certain nombre de revendications suffragistes, puisqu'on sait qu'un indicateur du droit des femmes, c'est souvent le droit de vote. Au Québec, c'est pas tellement mieux qu'en France, puisque les femmes ont eu le droit de vote en 1940. Néanmoins, cette question a quand même été soulevée bien avant et de manière plus vigoureuse, en tout cas qu'en France, voilà, où le droit de vote est arrivé après la Seconde Guerre mondiale.
Alors, après ce féminisme réformiste, il y a eu un courant plus radical dans la deuxième moitié des années 60, avec plusieurs groupes, dont le Front de libération des femmes du Québec, le FLF. Elles ont usé d'actions directes en occupant le palais de justice ou des tavernes interdites aux femmes, par exemple.
Là, c'était probablement encore pire parce qu'il n'y avait pas de mouvement des femmes à l'extérieur pour interagir avec cette question-là du tout. Le féminisme n'existait pas comme question sociale. Même la question des femmes ne se posait pas. On aimerait ça, nous aussi, écrire des textes, on aimerait ça, on a des choses à dire et tout ça. Mais tout ça était comme relégué à la marge et c'était pas important.
Il faut savoir que sa naissance coïncide d'ailleurs avec l'émergence du mouvement souverainiste québécois, porté entre autres par le Front de libération du Québec. Et la sociologue Diane Lamoureux le rapporte dans un article universitaire sur les ambivalences du féminisme québécois face au discours postcolonial, celle qui s'abreuvait intellectuellement des textes de Frantz Fanon et qui admirait la révolution algérienne, avait pour slogan « Pas de Québec libre sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans Québec libre ». Alors voilà, pardon, moi je trouve ça un peu fort de café, mais passons.
Oui, surtout on espère que ça concernait toutes les femmes.
Voilà.
Pas que les femmes québécoises blanches.
Spoiler.
Ouais, bon, passons. Donc l'accès à l'IVG va se faire ensuite, comme chez nous, dans les années 70, grâce aux luttes de la féministe Lise Payette et du docteur Henry Morgenthaler. Mais contrairement à chez nous, ce droit a quand même été attaqué plusieurs fois depuis les années 80. Et en ce sens, le Québec et le Canada entretiennent une certaine proximité, en tout cas parfois intellectuelle ou législative, avec les États-Unis. Et d'ailleurs, dans certaines provinces, l'accès aux cliniques reste encore difficile aujourd'hui. Il y a une spécificité au Québec, et il y en a d'ailleurs plusieurs par rapport à la France, c'est le Conseil du statut de la femme, qui n'a pas vraiment d'équivalent chez nous. On pourrait dire que c'est un mélange entre le Haut Conseil à l'égalité, le ministère des droits des femmes. En tout cas, c'est une instance qui propose énormément d'initiatives et de politiques publiques. D'ailleurs, le Québec possède un réseau de garderies universelles à coût fixe qui est tout à fait unique en Amérique du Nord. Ensuite, dans les années 90, il y a, comme un peu partout dans le monde, et notamment chez nous, des lois sur l'égalité salariale qui sont passées, mais le Québec est allé encore plus loin, par exemple, puisque les fonctionnaires ont eu droit à des dédommagements rétroactifs, ce qui est quand même assez chouette, à hauteur de 1,2 milliard de dollars.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc rendez la thune en France.
Ah, c'est clair.
Sans surprise, le Québec est aussi plus en avance que nous sur la féminisation des mots et des métiers. Les manuels scolaires sont également plus inclusifs. Il y a eu des lois sur l'enseignement supérieur qui sont passées sur la question de l'éducation et de la sensibilisation aux violences, par exemple. Alors que chez nous, les ABCD de l'égalité ont été rapidement balayés sous le tapis.
Oui, et puis il y a eu des marqueurs comme la marche du pain et des roses contre la pauvreté en 1995, la marche mondiale des femmes en 2000, ou Idle No More, le mouvement porté par des femmes autochtones contre la colonisation et le patriarcat en
2012. And the reality is, they've tried every kind of genocidal tactic on us, and we are still here.
Il faut savoir que la même année, c'est une femme, Pauline Marois, qui est nommée première ministre. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste dans l'histoire de la province. Yay, et un point de plus pour la diversification des élites.
Oui, il faut savoir que le poste de première ministre n'est pas comme chez nous, hein, c'est le poste politique le plus important. Donc voilà, nous, on attend toujours...
On attend toujours.
L'hypothétique candidature de Christiane Taubira, Taubira 2022.
On croise les doigts.
Alors évidemment, MeToo a également eu une onde de choc au Québec, notamment avec le hashtag agression sexuelle non dénoncée, puisqu'il y a eu un scandale sexuel autour du producteur d'humour et du présentateur Gilbert Rozon. Et plusieurs femmes ont témoigné avoir été violées quand elles étaient mineures.
Ouais, et puis après MeToo, en juillet, il y a eu un séisme puisque 1100 noms d'agresseurs présumés sont sortis sur les réseaux sociaux par l'intermédiaire de l'initiative anonyme Dis son nom. Des tas d'hommes célèbres ont été pointés du doigt et ils ont dû faire leur mea culpa ou démissionner. Le bassiste du groupe Simple Plan, le fondateur de la maison de disques de cœur de pirates, Dare to Care, des humoristes, des youtubeurs, des présentateurs et pas mal de gens connus, en somme. Ce mouvement est, je cite, « inédit dans son ampleur et dans la multiplicité des milieux qui sont concernés », comme l'a déclaré la sociologue Sandrine Ricci à l'AFP.
Oui, alors on n'a vraiment pas d'équivalent chez nous. Hein. Peut-être on attend que ça arrive en France.
Attendons.
Cela dit, il faut aussi préciser qu'il y a eu quand même de nombreuses critiques et une levée de boucliers, comme d'habitude, contre ces méthodes qui ont pu être comparées, je cite, à du lynchage.
Bon.
Voilà. Il faut dire également que le milieu universitaire québécois sur les questions de genre est très dynamique, qu'il est plus en avance aussi que chez nous. Pour citer certaines de ces personnes, il y a notamment Mélissa Blais et Francis Dupuy-Déry, dont le dernier livre s'appelle « La crise de la masculinité », qui étudie le masculinisme et l'antiféminisme. Il y a également la sociologue Diane Lamoureux, tu en parlais. Gabrielle Richard, qui est l'autrice de « Hétéro, l'école », point d'interrogation, qui est, me semble-t-il, installée en France. Il y a aussi le médecin Martin Vinclair, qui est installé au Canada. Et il faut aussi citer les éditions du Remue-Ménage, qui font un formidable travail de défrichage depuis plusieurs années.
Ouais, t'as raison. Et puis je pense aussi à la sociologue Farida Osmani, qui s'est notamment penchée sur la place que l'on accorde aux femmes immigrantes dans les mouvements féministes au Québec, dans un article universitaire que je vous recommande, car il fait énormément écho à la situation française.
Oui, alors du coup, on s'interroge, est-ce que le Québec est réellement un modèle ? Y a-t-il des limites, des critiques que l'on peut émettre ?
Eh bien écoutez, vu le tableau de l'état colonial qu'on vous a dressé en première partie, vous vous en doutez, le Québec et le Canada dans son ensemble, ce n'est pas le paradis matriarcal que l'on imagine, loin de là même. On en parlait justement ensemble dans l'épisode de Quad Meuf consacré à la médecine. Mais il y a 4 mois à peine, Joyce Echaquan, une jeune femme autochtone de 27 ans, mourait dans un hôpital québécois quelques minutes après avoir filmé les maltraitances qu'elle subissait. Et dans la vidéo, on peut entendre le personnel hospitalier proférer des insultes racistes à son encontre. Ça a d'ailleurs lancé un débat sur le racisme systémique que subissent les peuples autochtones au Québec.
Le premier ministre de la province, François Legault, a par ailleurs refusé d'admettre le caractère systémique du racisme québécois. Tiens, ça nous rappelle des choses par chez nous. Pourtant, au fil de ces affaires, on peut constater que les racismes québécois et canadiens existent bel et bien, qu'ils se portent bien d'ailleurs.
Ouais.
Et les injustices que vivent les femmes autochtones se retrouvent précisément à l'intersection des questions de genre, de classe et de race.
Et oui, en 2017, les chercheuses Yvonne Boyer et Judith Bartlett mettent au jour l'affaire de stérilisation forcée subie par des femmes autochtones de la région du Saskatchewan, située au centre-ouest du Canada. Et après avoir accouché à l'hôpital, on leur a forcé la main pour une ligature des trompes afin de ne pas dépasser, je cite, « la taille optimale d'une famille » définie par les services de santé régionaux, parfois en leur faisant croire à une méthode de contraception ordinaire, donc non définitive. Et ça s'est produit, il faut le savoir, il y a seulement quelques années.
Les derniers cas qui ont fait l'objet de plaintes datent de 2017 en Saskatchewan. Hey boy,
en effet. J'ai un recours collectif qui est présentement en train d'être mis en place pour supporter, en fait, de la part des victimes de ces stérilisations portées-là.
Oui, donc on voit qu'il y a bien une forme de continuation des politiques coloniales à travers des méthodes eugénistes, vraiment, racialisées. Et sans compter que, selon une enquête qui date de 2016, une femme sur trois issue des Premières Nations serait agressée sexuellement au cours de sa vie. Et, fait très intéressant, 86% de leurs agresseurs seraient des hommes non autochtones. Donc on voit bien ici à quel point le viol peut être une arme utilisée contre des populations minorisées.
Ouais, justement en 2015, c'est un reportage de Radio-Canada qui présentait les témoignages accablants de plusieurs femmes autochtones de la ville de Val-d'Or, dans le nord du Québec, racontant avoir subi des agressions sexuelles et d'autres violences de la part des policiers de la Sûreté du Québec, la police provinciale.
Ben souvent c'était ici que les policiers venaient débarquer des filles, ici là, puis souvent par la bouche, puis les filles marchaient. Il marchait tout ça pour revenir vers la ville. Ben souvent, il m'embarquait, après ça, il me parlait. Puis là, ben, à la place de m'amener au poste de police, mais il m'amenait dans un autre endroit. Là.
Comme ici?
Ouais. Puis là, ben, c'est là qu'il me demandait. Puis là, ben, il me disait qu'il allait avoir de la bière. Tu sais. Les autres, il y en avait dans leur coffre, là, les policiers. Là, on arrêtait sur le bord du chemin, il me donnait une bière. Puis là, moi, je buvais, puis il m'en donnait une autre. Puis là, ben, on allait dans un petit chemin par ici, là.
Un an plus tard, l'enquête est suspendue et la demande d'une commission d'enquête indépendante rejetée. Donc voilà, des femmes autochtones disparues et assassinées. La gendarmerie royale du Canada en a compté 1186 depuis les années 80 jusqu'à publication de leur rapport en 2014. Et il faut savoir que très peu d'enquêtes aboutissent. Le père de Cindy Rupert House, porté disparu depuis le 23 avril 2014 dans la ville du Val-d'Or encore au Québec, disait à Radio-Canada l'année suivante « Quand c'est un blanc, ils font tout. Ils vont ratisser tout le terrain. Nous autres, rien. On dirait que c'est pas important. » Donc voilà, niveau féminicide, on en est là. Il y a même une route qui a été rebaptisée la route des larmes en Colombie-Britannique parce qu'il y a des dizaines de femmes autochtones qui ont disparu à ses abords depuis 1969. Et il y a même des panneaux qui avertissent les filles, ne faites pas d'autostop sur la route des larmes.
Oui, parce qu'on sait bien que c'est toujours la faute des victimes si elles se font agresser. Victim blaming. Et alors, en tout cas, un fait qui est bien connu dans le reste du monde, c'est la tuerie de masse la plus meurtrière du Canada, le massacre de l'école polytechnique qui a eu lieu le 6 décembre 89. Pour rappeler les faits, un homme tire sur 14 étudiantes, les tue et en blesse 10 autres. Il décide sciemment d'épargner les garçons et dans la lettre qu'il laisse, il écrit... Je le cite, j'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que la vie ne m'apporte plus de joie et étant totalement blasée, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos.
Ok, super.
Cool story, wow. Bro. Donc, c'est un événement qui est commémoré au Québec chaque année au mois de décembre et qui permet encore aujourd'hui d'évoquer d'autres formes de terrorisme que le terrorisme islamiste dont on parle beaucoup, en tout cas en France, puisqu'il s'agit d'un terrorisme blanc, masculin et misogyne qui n'est pas éloigné de celui des incels, les célibataires involontaires.
Tout à fait.
La question qui se pose souvent quand on évoque cet événement, c'est faut-il donner le nom du tueur et perpétrer son nom dans la mémoire. Il faut savoir qu'il est considéré comme un martyr par de nombreux masculinistes de tout poil et qu'il continue encore aujourd'hui d'inspirer des meurtriers misogynes. Donc nous, on décide de ne pas donner son nom. Voilà.
Voilà.
C'était un matin excitant. C'était un matin où ça commençait à goûter la fin de mes études.
Et soudainement, il y a quelqu'un qui rentre dans la classe qui a une allure différente. Un look un peu plus militaire, si je me souviens bien, avec une carabine.
Bah écoute, face à un féminisme protéiforme et visible, il y a logiquement une riposte et les mouvements masculinistes sont puissants au Québec, force est de le constater. Les femmes auraient un privilège féminin, on ne pourrait plus draguer, les féministes seraient responsables de l'échec scolaire des garçons, les hommes seraient émasculés et déboutés de toutes les sphères de la société, mais en réalité, ils sont toujours majoritaires en politique.
Oui, d'ailleurs, ces masculinistes ont largement contribué à diffuser un discours autour du mythe d'un matriarcat québécois qui n'a en réalité aucune existence
jamais
tangible. Voilà. Et comme en France, on retrouve des similarités, notamment des groupes de droits des pères qui font des esclandres dans la presse en disant qu'on leur refuse la garde de leur enfant. En réalité, on sait que ce n'est pas exactement la vérité et que si on leur refuse la garde, c'est souvent soit qu'ils ne l'ont pas demandé, soit qu'ils ont par exemple des précédents, des affaires de violence. Mmh. On peut citer Fathers for Justice ou encore Après la rupture parmi ces groupes-là.
Et puis encore, il faut citer aussi qu'en janvier 2020, il y a eu le féminicide de Marilyn Levesque par Eustachio Gallez qui a fait beaucoup couler d'encre, mais surtout parce que la victime était travailleuse du sexe. Là, on a eu le droit à un déferlement de putophobie médiatique. D'ailleurs, pour rappel, le Canada a adopté une loi de pénalisation des clients en 2014, une loi semblable à celle que l'on a en France et qui, à défaut de protéger les TDS, les expose, comme le déplorait Sandra Wesley, la directrice générale de Stella, un organisme qui intervient auprès des travailleuses du sexe.
Alors, est-ce qu'on a des conseils, des comptes Instagram à suivre, ou des revues ou des festivals pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur le féminisme, les questions de genre, de classe et de race au Québec?
Eh bien, écoute, en termes de festivités, et là, je m'adresse surtout aux expatriés.
Hors pandémie.
Voilà. Je croise les doigts pour que ça puisse reprendre. Il y a la scène ballroom montréalaise florissante. Il y a eu des tas de festivals gratuits aussi. Mon préféré s'appelle Slut Island.
Excellent nom.
Ouais. Peut-être que dans l'un d'entre eux, vous croiserez les Anges Gardiens de Pluri, qui est un organisme qui lutte contre le harcèlement en milieu festif. Je vous recommande aussi la revue érotique anglophone L'Est Magazine et en podcast Le Bulletin des Cousins, présenté par la DJ Gaïance et Julio Mendy, et Black Girls from Laval, animé entre autres par la vidéaste Naïla, qui tient la chaîne YouTube La Grosse qui fait des vidéos.
Trop bien. On va checker ça. Moi, de mon côté, je vous recommande le compte Instagram de Myriam Daguzan-Bernier, qui est l'autrice de Tout Nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Et moi, j'aime bien écouter le podcast Ferry Traversée Érotique, qui est produit par Radio-Canada. Alors, on a un témoignage qui nous vient du Québec cette semaine.
Oui, c'est Caroline Monet, qui est une artiste pluridisciplinaire d'origine algonquine et bretonne. Elle a grandi entre Douarnenez et Outaouais, au Québec, et elle a gentiment accepté de nous raconter son expérience de femme au Québec. On l'écoute.
Je m'appelle Caroline Monet, je suis née à Ottawa. J'ai grandi au Québec dans la région de l'Outaouais. Ma mère est algonquine, donc une Première Nation du Canada, et mon père est français. J'habite actuellement à Montréal. Je suis une artiste pluridisciplinaire qui travaille autant en cinéma qu'en art visuel et ma pratique varie beaucoup, que ce soit en sculpture, peinture, installation, vidéo également. Je m'intéresse particulièrement à la représentation des Premières Nations à l'écran et surtout comment les femmes autochtones sont représentées à l'écran. Ce qui m'intéresse, c'est de briser des stéréotypes attachés à la femme autochtone dans le but de dresser un portrait qui soit plus authentique et un peu plus complexe. J'ai toujours été intriguée par le concept de coexistence, qu'il soit culturel, géographique ou même artistique. J'ai grandi entre le Finistère et l'Outaouais et j'ai souvent tendance à interroger mon rapport à l'identité. On pense souvent que l'identité est rattachée à un territoire, mais qu'est-ce qui se passe quand cette identité elle est partagée en deux géographies distinctes? Selon moi, il existe une multiplicité de mondes dans lesquels on doit naviguer en tant que Première Nation et mon travail touche à ces idées complexes autour de l'identité biculturelle. Ça explore un peu les zones grises qui sont parfois difficiles à catégoriser. Je suis consciente que j'ai beaucoup de chance d'être née et de vivre au Québec par rapport à d'autres réalités dans le monde. C'est un pays industrialisé avec une population féminine qui se considère indépendante, éduquée, qui accède aux différents milieux professionnels. Je pense toutefois qu'il reste encore du chemin à faire pour arriver à une réelle équité dans la société québécoise. Le plafond de verre, il existe encore. Les femmes sont toujours moins payées que les hommes. Elles doivent continuer de se battre pour faire respecter leurs droits et constamment prouver qu'elles ont les capacités nécessaires pour accomplir leur travail. Et cette réalité, elle frappe encore plus lorsqu'on est issu d'une minorité en tant que femme. D'ailleurs, les femmes ont eu le droit de vote en 1940 au Québec, qui est d'ailleurs la dernière province du Canada à avoir donné le droit de vote aux femmes. Donc, le Québec était quand même en arrière par rapport aux autres provinces du Canada. Puis, pour ce qui est des femmes autochtones, elles ont dû attendre jusqu'en 1969 pour obtenir ce droit. Je trouve que cela en dit beaucoup sur la condition de la femme issue des Premières Nations, Inuits ou Métis au Québec. Le Canada et donc le Québec, par la même manière, est souvent cité par les organismes internationaux qui étudient le bien-être humain, dont les Nations Unies, comme étant l'un des pays au monde où il fait le mieux vivre. Ça change radicalement lorsqu'on examine du point de vue de la vie des femmes autochtones. Et c'est ces choses-là qui font que les femmes autochtones représentent aujourd'hui la tranche de population la plus défavorisée au Québec. Les femmes autochtones ont 8 fois plus de chances de subir de la violence, voire d'en mourir, que les autres femmes québécoises. Il existe au Canada, mais donc aussi au Québec, une commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. On parle d'un féminicide autochtone. Par exemple, on parle de plus de 1200 femmes autochtones qui ont disparu dans une indifférence quasi totale de la société. Il faut se rappeler que si on regarde de façon proportionnelle à la population générale, ça peut représenter jusqu'à 30 000 femmes canadiennes. Un tel décompte de femmes assassinées ou disparues déclencherait un véritable scandale. Donc, le phénomène de violence systémique que subissent les femmes autochtones s'est retrouvé comme ça au centre de l'actualité, ce qui nous a laissé croire qu'un changement était possible. Donc, on est bien loin d'une conscience collective et les femmes autochtones restent malheureusement invisibles. Pour ma part, je me considère privilégiée. Je suis née dans une famille unie où on m'a toujours encouragée à me dépasser et à croire que tout était possible pour moi. J'ai eu accès à une éducation, j'ai travaillé fort pour atteindre mes objectifs et aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon art et à être totalement indépendante. Je suis consciente, par contre, d'être la première génération de femmes dans ma famille à avoir ce privilège et que ma réalité, elle est différente de celle de ma mère ou de ma grand-mère. L'industrie dans laquelle je travaille et même tout le secteur des arts et de la culture reste quand même un milieu masculin où les femmes doivent prendre leur place. Elles doivent constamment prouver qu'elles sont capables, qu'elles ont du talent, qu'elles sont capables de gérer la pression. Ça arrive souvent de se faire paternaliser, surtout dans le milieu du cinéma. En art visuel, c'est un petit peu différent dans le sens que beaucoup pensent que l'art fait par des femmes a moins de valeur que celui des hommes. Je trouve qu'en tant que société, on est toujours dans les carcans on veut pas trop investir dans la carrière d'une femme parce qu'elle risque d'avoir une famille et de plus être aussi performante, de ne plus produire autant. J'ai beaucoup de difficultés, moi, personnellement, à accepter que c'est encore des inquiétudes en 2021. Alors qu'on est dans un processus de recherche d'équité dans la société, ça me frustre que mes collègues masculins se font jamais demander s'ils désirent avoir des enfants. C'est comme si ambition et famille, ça pouvait pas coexister chez la femme. Je veux quand même souligner que plusieurs femmes québécoises occupent des postes importants. Je pense notamment à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, mais aussi des femmes qui occupent des grands postes au sein de grandes institutions comme l'Office national du film du Canada ou Téléfilm Canada. D'ailleurs, ces deux organismes, ils ont lancé dernièrement une campagne d'équité où 50% de leurs projets doivent être dirigés par des femmes. Et pour moi, c'est ce qui fait une vraie différence dans le paysage cinématographique québécois pour les années à venir. J'admire aussi beaucoup le travail acharné des femmes autochtones du Québec qui se battent chaque jour pour sortir de l'ombre et pour que nos droits soient respectés. J'espère qu'on va finalement arriver à se faire reconnaître, se faire respecter, se faire accepter.
Merci pour ce témoignage. Ça fait du bien d'entendre autre chose et d'autres accents dans cette émission.
Oui, merci.
Alors toi, je crois que tu as eu une expérience québécoise.
Eh oui.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, tout à fait. Bah écoute, moi j'ai vécu à Montréal pendant près de 2 ans pour un PVT, ce qu'on appelle en fait un permis vacances-travail. J'en avais ras-le-bol de Paris et de la France en général. Il faut savoir aussi que des années avant de partir, j'avais fait la rencontre de la réalisatrice Amandine Gay. Et c'est à ce moment-là qu'elle y vivait. Et je crois que, outre mon admiration, je me suis énormément identifiée à elle. Elle disait plein de belles choses sur la ville, notamment sur son progressisme. Et effectivement, j'y ai fait plein de belles rencontres et comme je n'avais jamais voyagé autrement qu'à but touristique, même en dehors de la capitale et de sa banlieue, j'ai pu me rendre compte aussi à quel point c'était vrai que l'on apprend à devenir soi loin de chez soi. Et oui, effectivement aussi, j'ai constaté beaucoup moins de harcèlement de rue. Alors après, de là à dire qu'il n'y existe pas, c'est faux. J'ai eu aussi pas mal de déconvenues, surtout quand je me suis rendu compte à quel point le racisme, la gentrification et le capitalisme y créent une exclusion sans merci. Et ce qui m'avait beaucoup choquée, entre autres, c'était le fait de pouvoir être expulsable à peu près à tout moment. La trêve hivernale que nous connaissons ici dure à peine plus de 2 semaines là-bas. Voilà. D'ailleurs, selon la porte-parole du parti politique Québec solidaire, qui s'appelle Manon Massé, le nombre de personnes sans-abri a doublé depuis le début de la crise sanitaire. Et toi, Clémentine, ton rapport au Québec ?
Alors moi, j'ai été très très brièvement à Montréal il y a très longtemps, donc mon expérience sur place est assez limitée. Mais en tout cas, je partage ce fantasme de beaucoup de féministes qui est une forme d'idéalisation à distance du Québec sans en subir justement les affres. Et effectivement, j'ai l'impression qu'au niveau du capitalisme, c'est assez proche de ce qu'on peut vivre aux États-Unis. Donc on est quand même moins protégé qu'en France. Pour autant, j'ai quand même l'impression que l'égalité a un temps d'avance là-bas et que même s'il y a énormément de racisme, la conscientisation de ces questions-là et notamment de la place des personnes autochtones est quand même plus avancée que chez nous pour les questions coloniales et post-coloniales. Mais peut-être que je me trompe. Si vous nous écoutez au Québec, vous nous direz ce qu'il en est. En tout cas, j'aimerais beaucoup y retourner. J'ai l'impression que c'est aussi un bon compromis entre la France et les États-Unis, tout simplement. Je rêve d'aller dans un bar qui s'appelle les Foufounes électriques.
Ah, bah, j'y suis allée.
Ah, ok. Je me demandais si ça existait encore.
Si, si.
Mais le nom me fait rêver. Donc voilà, auditeurs, auditrices, invitez-moi, s'il vous plaît. Enfin, pas en hiver. Effectivement, on peut aussi parler du mépris de la France pour cette ancienne colonie, notamment à travers la langue, puisque c'est pas une nouveauté. On sait très bien que l'accent québécois, d'ailleurs comme l'accent belge, est une source de vieilles blagues xénophobes assez rances. D'ailleurs, moi, j'avais une copine québécoise qui se faisait régulièrement lourder par des mecs avec qui elle sortait à Paris à cause de son accent, qui était jugée pas sexy. Je trouvais ça vraiment incroyable. Mais sinon, je m'étonne assez souvent du manque de porosité entre le Canada francophone et la France. C'est-à-dire que on ne sait pas très bien si les productions françaises arrivent au Québec, mais en tout cas, dans notre sens, on est assez peu au courant de ce qui se passe au Québec, à part les chansons de Cœur de Pirate.
Le moment
pop
culture.
Pop culture.
Eh bien, justement, parlons culture populaire. Est-ce qu'il y a du cinéma québécois qui t'a marqué ?
Alors, pour parler de pop culture, si vous n'êtes pas fan de Denis Arcan, il y a d'autres choses à se mettre sous la dent.
Oh oui.
Notamment Xavier Dolan, la tête à claque du jeune cinéma québécois qui contribue quand même à son rayonnement mondial, même s'il est assez exaspérant à mon sens. Moi, je recommanderais Lawrence Anyways, qui est, à mon avis, son chef-d'œuvre, qui est un grand film sur la transidentité, même si, gros bémol, le rôle est joué par un comédien cis, Melville Poupeau. Je trouve que le film est néanmoins très beau.
C'est une révolte. Non, sire, c'est une révolution.
Notre génération est capable de prendre seul. On est rendu là. Sky's the limit. Tu te déguises depuis combien de temps ?
Depuis aujourd'hui. On pourrait faire une surprise à papa. Je pourrais rentrer avec toi.
Mais oui, Xavier Dolan, évidemment. Je crois que ça a été l'un de mes premiers coups de foudre cinématographiques. J'ai été secouée par J'ai tué ma mère. J'avais 20 ans à peine et je vivais une relation chaotique avec la mienne. Donc les relations familiales tendues, c'est l'une de ses spécialités. Et il le fait très bien. On l'a vu avec Mommy, Tom à la ferme et Jusqu'à la fin du monde.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang.
D'ailleurs, Mona Chokri, l'une de ses actrices favorites, s'y est essayée avec son premier long métrage intitulé « La femme de mon frère ». Ça raconte l'histoire de Sophia, une thésarde sans emploi, hébergée par son frère. Et leur relation fusionnelle est mise à l'épreuve lorsque celui-ci tombe amoureux de la gynécologue de sa sœur alors qu'il l'accompagnait avorter. Assez cocasse.
Et c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça?
Mais le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment.
Est-ce que vous faites du sport?
Pas mal, quand même.
Donc, c'est votre petite amie qui va vous accompagner après l'intervention?
Non.
Ben non.
Oui?
Enfin, je suis son frère.
Que c'est ma soeur.
Non, je suis sa sœur.
Oui, en tout cas, bravo à Monia Chokri de s'être émancipée de la tutelle de Xavier Dolan. C'est très bien. En plus, on l'aime beaucoup. Et sur la famille, il y a aussi un autre film un peu culte, c'est Crazy de Jean-Marc Vallée, sur Zach et la masculinité toxique de sa famille. Donc, outre sa mère, c'est une famille qui est exclusivement composée d'hommes cis hétéros qui veulent l'empêcher de vivre son homosexualité sereinement. On rappelle aussi que Jean-Marc Vallée est un cinéaste québécois qui a beaucoup de succès en ce moment à Hollywood. Alors, personnellement, je n'aime pas tellement ses films, mais j'aime beaucoup ses séries. Oui. C'est lui qui a réalisé Sharp Objects et Big Little Lies.
Donc, ouais, j'avais beaucoup aimé Big Little Lies, oui. Effectivement. Dans les films récents, je retiens aussi Une colonie de Geneviève Duluth de Selle, qui raconte le passage à l'adolescence de la timide Milia et de sa rencontre avec Jimmy, un jeune garçon abénaquais résidant dans une réserve voisine. Puis il y a aussi L'Antigone de Sophie Derap, adaptation de la pièce de Sophocle, qui a été nominée aux Oscars en 2019. Cette fois, Antigone est une Québécoise d'origine kabyle, dont le frère est a été tuée par un policier et l'autre incarcéré. Elle met en place un stratagème pour le faire sortir de prison.
Là, il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux.
Ça marchera jamais, Tato. J'ai peur pour toi. Fais ce qu'il faut.
Eh bien, je note, parce que je n'ai vu aucun de ces deux films.
Ils sont très bons.
Et alors, un autre monument mondial de la culture québécoise, c'est quand même l'inoxydable Céline Dion.
Queen.
N'en déplaise aux fans de Robert Charlebois. C'est donc notre icône gay préférée. Et un film réalisé par Valérie Lemercier, qui était programmé en novembre, puis est maintenant reprogrammé en février, donc on ne sait pas s'il va finir par sortir, est un hommage à Céline Dion. Il s'appelle Aline. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Il faut savoir que Valérie Lemercier est fan de Céline Dion, hein, elle ne s'en cache pas. Par contre, ce n'est pas elle qui chante toutes les reprises dans le film. Néanmoins, elle joue tous les âges de la chanteuse. Elle la joue même enfant, en étant adulte. Donc c'est
original.
Voilà, c'est un dispositif qui est très surprenant. Le film est quand même sur le fil, puisqu'on se demande si le récit ne se fout pas un peu de la gueule de cette famille qui est assez populaire. Il faut savoir que Céline Dion vient d'une famille nombreuse où tous les membres de la famille pratiquaient la musique et la chanson. Moi, j'ai trouvé le film assez touchant, notamment parce que Céline Dion a une carrière assez exemplaire et qui n'est pas marquée par les excès, contrairement à d'autres célébrités, c'est-à-dire l'alcool, la drogue, etc. C'est une star plutôt sobre dans ce contexte. Bon, on sait qu'elle est tombée amoureuse de son producteur qui était plus âgé, mais celui-ci s'est plutôt bien comporté avec elle.
Faut que tu guérisses.
Je suis pas malade, maman. Je suis tombée en amour. Puis je suis sûre que lui, c'est pareil.
Vous avez pas compris que pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut? Pas un vieux pruneau bronzé qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui est deux fois divorcé.
Une.
Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman.
Voilà, et donc le film reprend toutes les modes successives qu'a connu Céline Dion. Période blouson en cuir, période pantalon blanc moulant, réfection du râtelier dentaire, etc. Jusqu'à Las Vegas, donc qui est la période la plus récente. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir si Céline Dion l'a vue ou qu'on peut voir.
Moi aussi, je me demande vraiment.
Voilà, en tout cas, on attend sa sortie avec impatience.
Hâte de voir ça. Écoute, côté série, moi, j'ai apprécié regarder Amour d'occasion, qui est une série assez courte de la réalisatrice Eva Kabuya. C'est sur Saint-Henri à Montréal, qui est un quartier populaire et qui, aujourd'hui, justement, connaît la gentrification. Le titre est inspiré du chef-d'œuvre littéraire de Gabriel Roy, Bonheur d'occasion, qui se situe aussi dans le même quartier. Et puis, il y a aussi la série culte, Le cœur a ses raisons, qu'on m'a beaucoup recommandé, notamment parce qu'il y a Anne Dorval dedans.
Eh bien, Madge, pour souligner votre anniversaire, Brett et moi allons vous amener au restaurant. Vous pourrez nous regarder manger.
Et oui, encore une actrice chérie par Xavier Dolan.
Mais oui.
N'est-ce pas?
Voilà.
Alors moi, quand j'étais petite, je me souviens avoir été marquée par un feuilleton québécois extrêmement déprimant qui s'appelait Émilie, la passion d'une vie, qui racontait la vie de souffrance d'une pauvre femme dans la neige québécoise, qui était une institutrice au 19e siècle, qui vivait dans sa cabane avec son mari. Je ne sais pas si cette série est connue ou pas au Québec, c'est un produit d'importation de mauvaise qualité qu'on a reçu. N'hésitez pas à nous le dire. Moi, sinon, plus proche de nous, sinon, je recommanderais la série lesbienne de Chloé Robichaud qui s'appelle Féminin, Féminin, qui est disponible sur Internet gratuitement et qui raconte plein de parcours différents d'un groupe de copines avec des témoignages face caméra qui sont assez incroyables sur la sexualité.
J'avais beaucoup apprécié, ouais.
Définir l'amour, ben, je pense que c'est l'union complète, là. Ça. Personnalité, sexe, fusion.
Alors en littérature, je vous recommande le roman slash essai de Nelly Arcan, qui s'est suicidée en 2009, qui s'intitule Putain. C'est une autofiction sur son expérience d'escorte quand elle était étudiante en lettres.
Ouais, c'est toujours sur ma to-do list à lire. Oui. Et alors dans les nouvelles plumes, cette année à la rentrée littéraire, on a pas mal parlé de la trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot, qui est publiée aux éditions du Sous-Sol. C'est un premier roman, c'est un pavé assez énorme. Moi, je l'ai commencé pour l'instant, j'en suis au début. Et il me semble que c'est une grande saga intergénérationnelle sur une famille. Donc les parents, les enfants devenus adultes et les amours des uns et des autres. C'est assez instructif. Voilà. Et dans les arts graphiques et visuels, je pense qu'on connaît tous et toute la série des Pôles, dessinée par Michel Rabagliati. Il faut savoir que le Québec, c'est aussi une terre d'expatriation pour les bédéastes et les dessinatrices, notamment Myrion Mal, qui a dessiné et écrit sa BD sur la dépression, qui s'appelle « C'est comme ça que je disparais ». Il y a aussi Julie Delporte, je vous recommande très chaudement son journal, qui est dessiné au crayon à papier, c'est absolument somptueux. Et on va avoir droit à sa prochaine œuvre, là, dans les mois qui suivent, donc en 2021.
Ok, bah je lirai ça avec plaisir.
Qu'est-ce que tu kiffes?
Qu'est-ce que t'écoutes?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis?
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf?
Alors, est-ce que tu as un livre qui n'a peut-être rien à voir avec le Québec d'ailleurs à nous recommander cette semaine?
Oui, cette semaine, je vous recommande un livre photo, puisque plus de 20 ans après sa première publication, Nos Systèmes, le premier livre photo de l'artiste britannique Vinka Petersen, est enfin réédité. En compilant photographies, extraits de journaux intimes et flyers, Nos Systèmes raconte l'histoire d'un voyage de 10 ans à travers l'Europe des années 90 au rythme des raves et free parties. Et c'est marrant puisque le point de départ, c'est quand même l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes destinées à l'écoute, je cite, de musique caractérisée par des rythmes répétitifs en Angleterre. Étrangement d'actualité, donc.
Et puis ça nous manque, en plus. Donc,
oui, ça nous manque.
Ça tombe bien.
Ça nous manque. Et toi, alors, est-ce que tu nous recommandes quelque chose?
Oui, alors la série, pour moi, de ce début d'année s'appelle Mum. Elle est diffusée sur Arte. C'est une série de la BBC, comme la BBC sait si bien les faire. Mmh. Elle met en scène la comédienne Leslie Manville. Alors moi, j'en ai un peu marre qu'on utilise l'expression « la grande dame du cinéma » pour parler d'actrice vieillissante. Grave. En tout cas, il s'agit d'une quinquagénaire, même jeune sexagénaire, qui vient de perdre son mari. Et donc, c'est un huis clos chez elle, avec son fils, qui est un grand dadais, la copine de son fils, qui est une ravie de la crèche, et divers membres de la famille plus ou moins envahissants qui se succèdent à son chevet, ainsi qu'un prétendant transi d'amour.
Hello, nice to meet you.
Yes, and you, Kelly.
Oh, oh, sorry.
Sorry.
I'll never know whether to,
Don't worry.
Was it nice? Yeah.
All right, Marco.
Right, you're just joking.
Yeah. Trying to look after my mum, really.
Stays.
Yeah. I'm my own shirt.
C'est vrai qu'à part Grace et Frankie, je trouve qu'on parle assez rarement de la question de l'agisme à la télévision. Donc voilà, je vous recommande cette série, même sur Arte.
Allô,
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 allô, monsieur l'ordinateur.
Quoi de meuf vous écoute?
Alors cette semaine, dans le courrier des auditrices, c'est Mariam qui nous a écrit pour nous demander comment faire quand on sort de dépression. Vaste question, Emeline. As-tu la réponse?
Eh bien, déjà, si tu t'es tirée d'une dépression, félicitations.
C'est clair, franchement.
Ouais. C'est une maladie qui consomme beaucoup d'énergie et qui isole énormément. Et pour en sortir, ça demande parfois des années de thérapie, d'autres fois même des traitements médicamenteux. Alors comment faire l'après? Je ne sais pas si ce que tu entends par là, c'est comment faire pour ne pas rechuter ou comment reprendre sa vie là où on l'avait laissé. Mais dans les deux cas, je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais j'ai eu la malchance de traverser cela à plusieurs reprises. Donc je vais te parler de quelques petites choses qui m'ont aidée. Déjà, parler à ses proches, à une personne de confiance, continuer une thérapie ou en commencer une si on en ressent le besoin ou l'envie. Je pense que c'est essentiel. Ensuite, une chose qui m'avait beaucoup aidée, c'était de faire une liste de gratitude. Ça permet de te recentrer sur ce qu'il y a de bon, mais aussi simplement d'identifier ce qui te fait du bien et d'y consacrer plus de temps. Voilà.
Merci pour ces bons conseils. On espère en tout cas qu'en temps de pandémie mondiale, on va déstigmatiser les questions liées à la santé mentale, puisqu'elles concernent quand même, je dirais, quasiment tout le monde en ce moment.
C'est clair.
Voilà, en tout cas, j'espère qu'on a fait un peu le tour de notre fascination-répulsion pour le Québec. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf et nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode court où l'on va parler de séries anglaises érotiques sur Netflix. Je ne vous en dis pas plus. Merci, salut Emeline.
Salut Clem.
Quadmeuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu et présenté par Clémentine Gallo
et Emeline Amétis.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, montage, réalisation et coordination Ashley Tola.